Bonjour.
Dans un instant, notre rendez-vous musical de l'été, il y a de la voix, les grands noms de la chanson, du lyrique et de l'imitation nous racontent leur voix. À qui le tour, Steven Bellery?
Une voix en or, Julien Doré.
L'été est propice à la lecture. Bernard Lehu, un livre par jour.
Un auteur en or, Marc Duguin, avec sans doute l'un de ses meilleurs romans, Ils vont tuer Robert Kennedy.
Notre saga secret de producteur nous emmène dans les coulisses du tournage de films à succès. À l'affiche, Stéphane Boutsock.
Eh ben, figurez-vous que le code a changé.
C'est quoi le nouveau code?
Ben, je ne sais pas.
On saura ça tout à l'heure. Et puis nous vous servirons un duo sorti de notre jukebox et une pépite trouvée dans l'album souvenir de nos belles rencontres.
Laissez-vous tenter tout l'été
avec Anthony Martin sur RTL.
Et donc à cette heure-ci, il y a de la voix sur RTL avec Julien Doré aujourd'hui, Steven Bellery.
L'infatigable Julien Doré. En décembre dernier, il terminait en beauté sa tournée marathon à Paris-Bercy avec deux concerts à guichet fermé. Il défendait depuis des mois sur les routes son quatrième album studio et vendu à 500 000 exemplaires et sacré album RTL de l'année 2017. Un immense succès qui a poussé le chanteur à réenregistrer plusieurs morceaux en version acoustique et à repartir sur les routes en solo avec son piano et sa guitare. Il y a de la voix avec Julien Doré.
Me concernant, mon enfance et mon adolescence, ça a été plutôt quelque chose que j'essayais de taire, par pudeur, par timidité. C'est-à-dire que même quand je commençais à poser mes mains sur une guitare, j'avais qu'une envie, c'était de laisser aller ma voix, même timidement, même tout seul, avec moi-même. Et je ne faisais que la taire. Il y avait une honte, j'osais pas.
Hey, je ne veux pas, je sais, quand j'arrêterai, je vais.
Et ce cap-là, ce déclic-là, ça a été quand on a monté notre premier groupe, quand j'étais au Beaux-Arts. J'ai commencé à écrire des textes, à écrire les chansons et à les hurler. D'un coup, d'une voix taiseuse, honteuse, je me suis mis à crier. Et ce premier concert, dans le bar de l'industrie à Nîmes, la première chanson, non seulement j'ai su que la voix à prendre, elle était là. C'est-à-dire, c'était ça. C'était une évidence. Je levais les yeux, je regardais les gens en face, j'avais pas honte et j'assumais de projeter quelque chose, vocalement. Ça a été le vrai déclic. Ça a changé ma vie.
Baby, I love you less and less.
Les voix basses, c'est toujours été bouleversant, c'est-à-dire Elvis.
Love me tender, love me true, all my dreams fulfill.
Brel, Arnaud, c'est cette présence, Léonard Cohen, enfin, où le bas t'attrape et te dit voilà, maintenant je vais te raconter quelque chose.
So long, Marianne, it's time that we began.
On m'a expliqué que j'étais basse chantante, qui était une catégorie de voix assez particulière, des cordes vocales assez courtes, enfin qui peuvent avoir beaucoup beaucoup de bas, et en même temps atteindre des suraigus. Mais j'essaie pas de faire le malin avec ma voix. Elle est en mouvement, elle est comme moi. Elle change au fil des années, en l'occurrence elle glisse vers le bas, et je pense qu'elle a la couleur de ce que je vis. Elle ressemble vraiment à ce que je suis, c'est-à-dire que je la considère pas comme plus forte que moi, et que le jour où on commence à s'écouter, il y a rien de plus terrible que de commencer à s'écouter. M'écoute pas. C'est un prolongement d'une envie, d'un besoin. Je sais pas si c'est un don, je sais juste que ça fait partie de ma vie là aujourd'hui et que je fais tout pour ne pas le gâcher ni le trahir. Est-ce que j'en suis à la hauteur? Pour avoir la réponse à cette question-là, c'est pour ça que chaque jour je travaille pour remettre en cause cette chance-là.
I need you so, oh, I won't let you go, oh, I need you so.
Avec les garçons, on se retrouve toujours une petite demi-heure avant le concert et on s'échauffe la voix. C'est un vieux truc, c'est un MP3 que j'ai depuis, je pense, deuxième ou troisième tournée, et on le met en fond. Mais c'est vrai que c'est devenu un rituel en fait. Ça doit sans doute nous aider un peu à chauffer la voix et à se mettre en condition. Mais après, j'avoue, je prends pas véritablement soin de ma voix, mais je pense que dans ce que je lui demande de faire et dans le lien qu'on a quand on est sur scène, c'est là finalement qu'on prend soin de sa voix. Quand on l'utilise pour les bonnes raisons, en fait, surtout.
T'aimais sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire.
C'est un instrument qui a effectivement une forme d'indépendance. mais que je respecte en lui faisant chanter ce que je veux qu'il chante.
Sur la plage,
j'aime ma voix beaucoup plus aujourd'hui qu'avant. Sans doute parce que j'ai arrêté de vouloir la faire ressembler à quelque chose d'autre. C'est assez rare, mais quand je réécoute les premières chansons que j'ai pu enregistrer, etc., j'ai du mal à reconnaître ma façon de chanter. C'est-à-dire, je me dis, il y avait tellement de peur de ne pas être à la hauteur que c'était peut-être pas nécessaire de faire autant de pirouettes pour dire ce que j'avais à dire. Tout a commencé aussi avec les chansons des autres, donc il fallait sans doute qu'avec ma voix, je les raconte autrement pour me raconter un peu moi-même. Je transmets une émotion, ça plaît pas, mais bon, je le fais comme je sais le faire.
Sublime silence autour de moi, tu danses et moi j'oublie. C'est à toi que je pense, à ta bouche brûlante quand tu souris.
Julien Doré et sa voix basse chantante. C'est vrai que je connaissais pas cette classification qui est rare, nous a-t-il dit.
Julien Doré devrait se reposer à présent. Il a donné son dernier concert acoustique le 28 juillet dernier à Carcassonne.
Il sort de deux années très intenses, hein, donc il peut se reposer. Il y a de la voix, revient tous les jours de l'été. Avec vous, Stephen Bellery, merci. Bernard Lehu, merci de nous accueillir chaque jour dans votre bibliothèque idéale de l'été.
Je vous en prie, je vous en prie.
On y trouve en bonne place l'un de vos grands coups de cœur de l'année, le roman de Marc Dugain, Ils vont tuer Robert Kennedy.
Et Marc Dugain renoue avec l'histoire des États-Unis, sa face sombre qu'il avait déjà magistralement évoquée dans La malédiction d'Edgar, Edgar Hoover, le tout-puissant directeur du FBI, ennemi juré de John Kennedy. L'écrivain reprend ici le fil tragique de cette histoire avec l'assassinat, 5 ans après celui de John à Dallas, de son frère Robert, les Kennedy et leur destin funeste, décidément une véritable obsession chez Marc Dugain.
Oui, c'est une obsession qui est là, puisque j'ai commencé à m'occuper des Kennedy, je pense que j'ai avoir 17 ans ou quelque chose comme ça. Il y a des liens avec ma famille. Mon grand-père a fait la guerre dans l'armée américaine, donc on était très pro-américains dans la famille. Mon père était très pro-Kennedy, et je me souviens à quel point il a été dévasté lors de la mort des deux frères. Et puis il y a des gens qui, voyant mon intérêt, m'ont donné aussi des dossiers qui n'étaient pas forcément accessibles à tout le monde, même des très 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 gros dossiers du FBI, enfin des choses très intéressantes quand on est passionné par le sujet. Et c'est vrai que c'est devenu un peu une obsession, au sens où dès qu'on me parle des Kennedy, il y a quelque chose qui s'allume en moi et qui fait que tout de suite ça m'intéresse.
Et pour Marc Dugain, qui est donc bien informé, la théorie du complot ne fait aucun doute.
Ah oui, fruit d'une collusion de la mafia, des anticastristes et du FBI. Et en donnant ici le premier rôle à Robert Kennedy, il en fait un personnage éminemment romanesque, un héros tragique, shakespearien, voire christique, en marche vers une mort inéluctable.
Il est passionnant parce que, au départ, c'est une sorte de chien fou au service de son frère. C'est-à-dire que c'est le jeune frère, pétri d'admiration pour son grand frère, pour John. Il se dévoue corps et âme pour son frère. Et puis ensuite, son frère le nomme ministre de la Justice, ce qui, à mon avis, à ce moment-là, est une erreur. Et évidemment, les ennemis qui montent contre Kennedy, le président, sont aussi ceux qui montent contre Robert. Et quand son frère meurt, c'est le premier partisan de la théorie du complot. Moi, je suis persuadé, et aujourd'hui, je suis plus persuadé que jamais, que Robert Kennedy savait qu'il allait être tué.
Et alors, à l'histoire des Kennedy et de l'Amérique, Marc Dugain mêle avec brio une pure fiction palpitante, l'enquête d'un universitaire canadien, qui est le narrateur également du livre, persuadé que la mort brutale de ses parents est liée à l'assassinat de Robert. Militant démocrates présents à Los Angeles le soir du drame, ils ont été des témoins trop gênants. 11e roman de Marc Dugain, Ils vont tuer Robert Kennedy, publié chez Gallimard, est l'un des grands livres des 12 derniers mois. Et moi, j'ai trouvé scandaleux qu'il n'ait aucun prix à l'automne dernier, en particulier le Goncourt. Voilà un de nos plus grands écrivains qui n'a jamais eu un grand prix, à part le grand prix RTL.
Oui,
heureusement qu'on est là.
Allez, on croise les doigts pour le prochain. Mais c'est vrai que c'est absolument passionnant. Merci Bernard. Et un film choral à l'honneur aujourd'hui dans notre chronique ciné secret de producteur, Stéphane Boutsock. Le producteur Alain Terzian nous parle des coulisses du 4e long métrage réalisé par Daniel Thompson, Le Code a changé.
Film sorti en 2009 avec en effet une affiche plutôt somptueuse, de Pierre Arditi à Marina Foïs, de Patrick Chenet à Emmanuel Seigné, de Patrick Bruel à Laurence Stoker, tous réunis à dîner comme tous les ans pour la fête de la musique, dans le film en tout cas, chez leurs amis Marie-Hélène et Piotr, j'ai nommé Karine Viard et Danny Boone.
Ah bah oui, tiens, j'ai invité Jean-Louis tout à l'heure.
Jean-Louis ?
Comme ta sœur vient seule, je me suis dit qu'il est mignon, non ?
Juliette ne vient pas seule.
Alain vient sans Mélanie. Et ce type n'a rien à voir avec tous ces gens. Et ça fait 3 hommes en plus.
Mais pourquoi tu t'énerves comme ça?
Ah oui, ça, toi, tu t'énerves plus, hein, jamais. Combien t'en as pris aujourd'hui?
0. J'ai balancé toute la boîte dans le bigos, comme ça tout le monde sera euphorique.
Évidemment, les petits et gros mensonges des uns et des autres vont rythmer la soirée. Un vaudeville tendre, cruel, dont Daniel Thompson a le secret. Alain Terzian connaissait bien son papa, Gérard Houry. Il a adoré travailler avec elle.
Daniel, ben, je l'avais connu dans le contexte de Gérard. C'est une princesse, c'était la scénariste mythique de La Boum. Donc en elle-même, elle était mythique, Daniel. Parce que La Boum, l'histoire avec sa propre fille, qu'elle écrit.
Ah, donc vous êtes
15 ans à Paris.
16. 2 enfants, 2 ados déjà.
Bienvenue au club.
Non, ça se passe très bien, sérieusement. Ils sont brillants tous les deux.
Nous, on a des jumelles.
Ah, les jumelles, c'est plus dur, non? Surtout les vraies.
Les nôtres sont fausses.
Oui, il y en a une qui est très éveillée et l'autre complètement abrutie. Hein?
Ouais, bah comme ça, au moins, on les reconnaît. Hein.
On passe à
quand vous regardez dans le code à changer, vous aviez Dany, Bruel, Karine Viard ou Marina Foïs. C'est un film où, d'un seul coup, tous ces acteurs portaient en eux quelque chose qui est aujourd'hui encore 10 fois plus évident, que ce sont tous d'énormes stars. Et je pense que c'est un moment, un carrefour.
Et dans ce casting incroyable, Stéphane, on s'arrête sur le cas d'Annie Boone, ouais, en rappelant la date de tournage du Code à changer. On est en 2008.
Hein. Oui, soit celle aussi de la sortie de Bienvenue chez les Ch'tis, le plus gros succès du cinéma français. Quand il faut choisir les acteurs pour le Code à changer, le phénomène n'est pas encore enclenché, mais sur le plateau, on va bientôt s'apercevoir que le statut de l'acteur, lui aussi, a changé.
Alain, toi, en tant que médecin, tu dois la vérité.
Mais c'est pas une dette, la vérité.
Et oh là, Alain. Si tu déroules dans la farine, tes patients, d'accord, mais nous...
Mais vous parlez concrètement d'une chose abstraite.
Ah tiens, donc crever, c'est abstrait.
Attends, où, quand, comment, c'est ça la vraie question. Hein.
Moi, je perds un cheveu, je me suicide.
Moi, je suis prêt à tout pour une nuit d'amour.
Bravo.
Quand elle a voulu réaliser le code, c'est vrai qu'on cherchait, elle cherchait, et elle a un rapport magique avec les acteurs. Dany, c'était une évidence, mais on est juste, les Ch'tis sont pas sortis du tout. Et donc, moi, je discute un contrat d'un acteur important, mais c'était pas Belmondo. Hein.
On s'en sort avec du baratin. Mmh.
Ouais, si je peux me permettre, tu demandes combien pour un quart d'heure de baratin?
400, comme toi. Ah.
Non, mais ça, c'est la consulte privée. À l'hôpital, le baratin est gratuit.
Non, mais sérieusement, vous dites quoi à quelqu'un qui va mourir?
Arrête de l'emmerder, il a du mal avec ça.
Mais pas du tout, au contraire, ça fait partie du métier. On croit qu'on est cancérologue, en fait, on est psychologue.
On était donc en tournage dans les studios d'Aubervilliers de mémoire. Et un jour, il arrive, il me dit, tu lui dis toi ou je lui dis moi à Daniel? Je lui dis, tu lui dis quoi? Ben, tu lui dis qu'on vient de passer les visiteurs en termes de recettes. Et 8 jours après, il revient et je le vois. Et il est avec Daniel, il parle dans un coin. Lui, il va s'habiller, il rigolait comme un gamin. Et Daniel vient voir, il ne savait pas comment te dire qu'il avait passé la grande vadrouille cette semaine.
La grande vadrouille, premier film scénarisé par Daniel Thompson. Les visiteurs, un des plus gros succès du producteur Alain Terzian. Le code a changé, sera lui aussi un joli succès. Plus d'1 600 000 entrées. Une petite musique du box-office qui en rappelle une autre.
On est allé faire la musique, je dis toujours on, c'est Daniel. Hein. Bon, je me sentais tellement en osmose et en harmonie qu'on a vécu en conclusion avec le compositeur de cette musique sublime, Nicolas Piovani, quelques jours, une petite semaine à Rome. Et sur ce film-là, on a tout eu et il faut remercier les dieux du cinéma et Daniel Thompson.
Le code a changé de Daniel Thompson. Redécouvrez-le en DVD chez Studio Canal.
Merci Stéphane. Rendez-vous demain pour de nouveaux secrets de producteurs. C'est l'heure de la pépite du jour. Vous le savez, si vous êtes fidèle au rendez-vous de Laissez-vous tenter durant l'année, nous avons la chance avec Yves Calvi et toute l'équipe d'accueillir les artistes qui font l'actualité. Le 16 mars dernier, un événement, une exclusivité. Mick Jagger était sur RTL, vous vous en souvenez, la star, très rare en interview, s'est confié à vous, Stephen Bellery, être un Rolling Stones, c'est du boulot, Mick Jagger.
Alors, il y a beaucoup de travail à faire pour préparer. J'ai fait la même chose pendant des années. Hein. Faut danser, aller dans le gym chaque jour, voilà.
Ça veut dire que Mick Jagger prend des cours de danse.
Mais je m'amuse bien dans le studio de danse. 45 minutes, alors c'est les choses les plus amusantes. Pour moi, le gym, c'est un peu ennuyant, mais la répétition de danse, c'est intéressant. Et après ça, vous pouvez faire toutes les choses sans problème, sans être blessé.
Est-ce que vous diriez que vous avez le même plaisir sur scène aujourd'hui que dans les années 60?
C'est différent parce que maintenant, c'est pas les petites boîtes, c'est les grands stades, et c'est différent comme ça. Mais c'est plus ou moins le même plaisir.
Être sur scène et continuer à faire des concerts, ça améliore votre espérance de vie?
Je pense, oui. C'est une bonne idée d'avoir un but, un boulot, quoi. Je travaille presque tous les jours un peu, tu sais, sur quelque chose. J'aime bien relaxer. Je suis pas un addict d'être sur scène ou dans le studio. J'aime bien lire ou faire n'importe quoi. Alors, je suis très relax comme personne.
Je suis très relax comme personne. La sérénité de Mick Jagger sur RTL, c'est un sacré document. Allez, on se quitte en musique comme chaque jour. Un duo sélectionné par notre jukebox de l'été. C'est notre duo du jour.
What now, my love?
What now, my love?
Now that you've left me, how can I live?
Je raccorde.
Oui. Ça, c'est une merveille.
Tranquille.
Avec Frank Sinatra, qui sur son album Duets en 1993 avait invité Aretha Franklin sur What Now My Love, la version anglaise de Et maintenant, Gilbert Beco, deux des plus grandes voix de l'histoire de la musique contemporaine réunies. Savourons. À demain.
I walk through the night without a goal.
Straight to my heart, my soul.
What now, my love?
What now, what now, what now, what now?
Now that it's over,
what now, what now, what now?
I feel the whole world,
yeah,
falling all around me. What now, my love? Now there is nothing, only my last goodbye, my last goodbye.